Bonjour à tout le monde. Un excellent septième jour de la fête des pains sans levain. On est déjà rendu là. Comme je mentionnais tantôt, la semaine a passé vraiment très, très rapidement. Sept jours sans manger de produits levés pour nous enseigner à éliminer le mal de nos vies. Parce que le levain représente le péché, le mal. Et nous, on est appelés à changer, à devenir comme le Christ, sans levain, et à devenir, dans ce sens-là, de vrais chrétiens, de vrais imitateurs du Christ. Alors, sept jours sans manger de produits levés, sept jours à manger un peu chaque jour de pain sans levain, qui représente justement la pureté du Christ, la perfection vers laquelle nous devons tendre. Sept jours de réflexion, puis sept jours de supplication aussi. Parce que quand on s'examine, qu'on voit les choses qu'on a à changer et qu'on réalise que seul on ne peut pas, on doit supplier Dieu de nous aider. Et on l'a fait cette semaine. Et Dieu a répondu. Et je dirais sept jours de test aussi. Parce que si vous êtes comme moi et mon épouse, on a eu des tests cette semaine. Il y a eu des épreuves, des affaires difficiles qui sont arrivées. Et Dieu le permet pour qu'on apprenne à compter sur lui et qu'on apprenne à passer à travers de ces épreuves-là. En étant des vainqueurs, en apprenant ce qu'on doit apprendre de ces événements-là et en devenant plus fort. Pourquoi sept jours de pain sans levain? C'est très simple. Pour Dieu, les chiffres ont une signification. Et le chiffre 7, ça veut dire quelque chose de complet. Quelque chose de complet. Les sept jours de la création, c'était complet. Les sept fêtes de Dieu, ça représente le plan total, le plan complet de Dieu. Et les sept jours des pains sans levain, ça représente le but vers lequel on tend au cours de notre vie d'aller vers la perfection totale et absolue, notre but final qui nous sera accordé si on est persévérant. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, qui parle justement du septième jour de la fête des pains sans levain que nous célébrons, jour annonciateur de victoire. Jour annonciateur de victoire. Et pour bien comprendre que c'est de Dieu que nous vient la force et que c'est un encouragement extraordinaire, on va prendre le récit d'un événement biblique majeur qui s'est produit il y a très longtemps, mais qui a beaucoup de signification pour nous. Un événement qui est survenu justement, comme aujourd'hui, le septième jour de la fête des pains sans levain. Et je vous parle maintenant de la conquête de la ville de Jéricho par les Israélites sous la conduite de Josué. Après 40 années dans le désert pour la nation d'Israël, après la mort de Moïse, après la désignation par Dieu de Josué comme son successeur, selon la promesse de Dieu, le temps était venu à ce moment-là pour Israël de s'emparer de la terre promise. C'était dans le plan de Dieu. La terre promise, c'est Canaan, le territoire de Canaan. Et en arrivant sur le territoire de Canaan, la première ville en importance, une ville très importante à ce moment-là, Jéricho. Et cette ville-là bloquait l'accès, pour ainsi dire, au reste du territoire, par là où ils arrivaient. Et je précise tout de suite, ce qui en est, c'est que le premier jour des pains sans levain, à ce moment-là, cette année-là, ça a été le premier jour du siège de la ville de Jéricho par les Israélites sous la direction de Josué. Premier jour des pains sans levain. Et ils devaient ensuite, durant 6 jours, faire des choses qu'on verra tantôt. Et le septième jour, ils allaient être capables de s'emparer de la ville. Et le septième jour des pains sans levain, comme aujourd'hui, ça a été la conquête et la destruction de la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, symboliquement, ça représente le mal dans le monde. Ça représente le péché que nous devons éliminer, que nous devons conquérir. Alors, il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Et en même temps, ça arrive exactement dans les jours que nous vivons maintenant, dans ce cycle de fêtes annuelles de Dieu. Mais pour eux autres, la prise de Jéricho, c'était simplement le début. C'était l'entrée dans la terre de Canaan. Après, il a fallu qu'ils livrent plusieurs batailles pour conquérir l'ensemble du pays. Et ici, je fais juste une petite remarque. Quand le Christ va revenir, La terre ne sera pas en paix et en repos immédiatement. Ça va prendre aussi une certaine période de temps avant que la terre se soumette dans son entier. On voit par la Bible qu'il y a même des nations comme l'Égypte qui risquent de ne pas vouloir observer les fêtes de Dieu les premières années. Et Dieu va les traiter en conséquence pour qu'ils apprennent à les observer et qu'ils en reçoivent les bénédictions. Mais voyez-vous, là, il y avait Jéricho à conquérir, mais ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Mais il devait être solide, il devait être zélé pour continuer, comme nous, on doit être zélé pour se rendre au royaume. Il y a plusieurs parallèles avec notre vie de chrétien par rapport à ce qui est arrivé aux Israélites à ce moment-là. Vous allez voir, c'est fascinant et c'est très encourageant. Et en même temps, plusieurs leçons et encouragements pour nous aujourd'hui. Surtout, ça montre la puissance irrésistible de Dieu pour vaincre le monde. Parce que quand les Israélites ont pris la ville de Jéricho, ils ont vaincu le monde, la société d'alors, cette société structurée, imposante, avec ses armées et toutes ces choses-là, pour vaincre le monde et pour donner la victoire à son peuple. Dieu, par sa puissance suprême, accomplit exactement ce qu'il dit, dans les temps qu'il mentionne aussi. On le voit par la coïncidence qui n'est pas effet du hasard, des choses qui arrivent au moment où Dieu donne que ça arrive. Alors, comme on va voir, la prise de Jéricho, ça nous montre la puissance irrésistible de Dieu pour vaincre le monde, pour donner la victoire à son peuple, lorsque son peuple lui fait confiance et lorsque son peuple fait sa part, lorsqu'il est fidèle. Parce que Dieu ne le fait pas pour nous. Comme Dieu n'a pas tout fait pour les Israélites à ce moment-là, pour qu'ils prennent Jéricho. Ils avaient des choses à faire. Mais Dieu a dit, faites ces choses-là et laissez-moi faire le reste. Et on va le voir dans l'histoire, c'est fascinant, c'est tellement encourageant. Allons à Josué chapitre 1, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, et vous pourrez garder un signet dans Josué, parce qu'on va revenir assez régulièrement. Josué chapitre 1, on va lire à partir du verset 1. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'était dans le plan. « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Dans le Nouveau Testament, on trouve la même promesse en ce qui concerne le peuple de Dieu actuellement, le petit troupeau que Dieu appelle, à qui il dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, mais c'est moi qui vais te donner la victoire. Fais ce que tu as à faire, et moi je vais faire le reste. » Et regardez ce que Dieu dit à Josué, et ça s'adresse à nous, et on doit en être de plus en plus conscients. Et la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain chaque année nous aident à être davantage conscients de ça et à vouloir aller plus loin chaque année. Fortifie-toi et prends courage, parce qu'il y a des choses, parfois, et même souvent, qui sont de nature à nous décourager. Comme c'était le cas pour Josué, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, dans toutes sortes de circonstances. Et ça s'applique à nous. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement. Voyez-vous, il y a des choses à faire. Une fois que je connais la loi de Dieu, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. On dit que c'est la loi de Moïse, mais c'est la loi que Dieu avait donnée via Moïse, par Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et plus on s'applique à obéir à Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu est avec nous de plus en plus, et ça devient évident. Il dit, verset 8, que ce livre de la loi, la Bible, pour nous. Ne s'éloigne point de ta bouche. On doit l'étudier chaque jour, l'approfondir et en vivre. Médite-le jour et nuit, pas juste pour le savoir, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ici, c'est intéressant parce que dans des documents que j'ai lus de M. John Ogwin, cet évangéliste que Dieu a inspiré de façon particulière, qui est décédé malheureusement depuis quelques années, M. Ogwin expliquait qu'il a fallu 6 ans de lutte à Israël pour soumettre le pays de Canaan, après qu'ils ont eu conquis Jéricho. Ça leur a pris 6 ans de lutte. Mais regardez comment les choses sont précises. Après 6 ans de lutte et que, après que le pays a été soumis, ils ont eu une année de repos. C'était quelle année? C'était la 7e année. La 7e année, ils ont eu le repos. Le 7e jour, c'est le sabbat, jour de repos. La 7e année, à ce moment-là, de travail pour vaincre, et le pays a été en repos. Et ça a été, dans la Bible, vous pourrez vérifier, la première année sabbatique. La première année sabbatique qu'on appelle. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que devait être Josué? On vient de voir la directive que Dieu lui a donnée. Mais qu'est-ce qu'il devait être Josué? Il devait, pour accomplir ce qu'il devait accomplir, être un conquérant. C'est-à-dire, en d'autres termes, être un vainqueur. Et c'est exactement la même chose pour ceux que Dieu appelle et pour ceux qu'il a appelés aux autres époques. Quand vous regardez, par exemple, le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, vous avez là la description des 7 étapes dans le temps des appelés, de l'Église de Dieu. Et à la fin de la description de chacune de ces étapes-là, quelle est la directive qui est donnée aux appelés de Dieu et la bénédiction qui vient avec? Dieu dit à celui qui vaincra, voici ce que je vais faire pour lui. Voici comment je vais être avec lui. À celui qui vaincra. Donc, on doit avoir les mêmes attributs ou les mêmes caractéristiques que Josué et on doit avoir la même attitude que Josué. On doit apprendre à compter sur Dieu, mais faire ce qu'on a à faire. Et Josué, c'est un bel exemple de vainqueur. Parce que quand vous lisez l'ensemble du livre de Josué, c'est intéressant. Plus loin dans l'histoire, une fois qu'ils ont été établis en Canaan, il y a des membres de la nation d'Israël qui ont commencé à diluer les choses de Dieu, qui ont commencé à se détourner et tout ça. Et à un moment donné, Josué, lui, ne voulait pas changer de direction. Et il a voulu continuer fidèlement, fidélité, loyauté à Dieu. Et il a dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez servir d'autres dieux, c'est votre responsabilité. Moi, je sais ce que j'ai à faire. J'ai pris un engagement vis-à-vis de Dieu, c'est de servir mon Dieu jusqu'au bout. Et il a dit, vous pourrez aller voir dans Josué 24, versets 14 et 15, il a dit, vous autres, là, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il l'avait fait jusque-là et il a continué à le faire jusqu'au bout. Mais Dieu a été avec lui jusqu'au bout. Pas parce qu'il était parfait. Josué était certainement pas parfait, comme nous, on n'est pas parfait. Mais nous, on doit avoir cette attitude-là, cette approche-là de dire, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Sa force et son courage lui venait de Dieu. Ça lui venait de Dieu. Maintenant, continuons l'histoire qu'on a commencée avec les événements qui ont mené à la conquête de Jéricho, la ville forte représentant le mal ou les problèmes de la société, toute la méchanceté. Josué, chapitre 2. Après ça, Josué a envoyé 2 espions pour voir la ville, pour préparer l'approche ou l'attaque. Josué 2, versets 1 et 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho, parce que c'est là qu'était la première destination. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, c'était des villes-états, alors il y avait un roi, « Voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici. Des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Et là, eux savaient ce qui s'était passé avant. Ils connaissaient l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Ça s'était su. Ces gens-là avaient peur d'Israël. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. » Et après, elle leur dit, « Poursuivez-les. Allez les chercher. » Allons au verset 8. « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. » Elle les avait cachés sur le toit ce qu'il y avait de couverture. Parce qu'il y avait des végétaux sur le toit qu'on faisait sécher à l'époque et tout ça. Alors, eux étaient cachés là. Et elle leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit, que vous avez tués. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Elle avait compris quelque chose. Elle s'était arrêtée aux événements qui s'étaient passés, et elle croyait. « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. » Elle a dit, « Je vous protège, mais vous me protégerez quand les choses vont mal tourner pour la ville. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand Israël a pris la ville, ils ont dévoué par interdit tout ce qu'il y avait de vivant dans la ville, sauf Rahab et ceux de sa famille qui étaient restés à l'intérieur de la maison. Et on lui avait dit quoi faire. On avait dit, mets un cordon de telle couleur à la fenêtre, parce qu'elle était sur la muraille. Sa maison était sur la muraille. Mets un cordon sur la fenêtre et on saura qu'on ne doit pas détruire cette partie-là. Et chose intéressante, c'est que cette partie-là de la ville existe encore. Les archéologues vont vous le dire, il y a une section du mur qui est encore existant, comme j'ai vu dans les textes. C'est comme un témoignage un peu de ce qui est arrivé. Maintenant, bon, eux ont respecté leur promesse envers Rahab. Ils l'ont protégée par la suite, on va le voir tantôt. Mais je veux faire quelques précisions sur cette dame-là. On dit Rahab la prostituée. C'est écrit de même en français. Puis c'est écrit de même en anglais dans la plupart de nos Bibles. Mais quand on regarde le sens du mot hébreu, qui a été traduit par prostituée, c'est qu'il peut avoir aussi un autre sens. C'est intéressant. Je ne suis pas à 100% sûr de ça, mais quand on regarde le sens des mots, ça veut dire quelque chose aussi. C'est que le mot qui a été traduit par prostituée en anglais et en français, dans la langue hébraïque, veut dire aussi hôtelière ou aubergiste. Quelqu'un qui a un gîte, qui accueille les passants, moyennant une rétribution, les voyageurs, les hommes d'affaires et ainsi de suite. Alors, il est possible que Rahab ait été simplement une hôtelière, quelqu'un qui accueillait les visiteurs et qui leur servait à manger et ainsi de suite. Je fais cette parenthèse-là parce que c'est intéressant de voir certaines nuances. On saura plus tard, mais c'est bon de voir ça. Mais j'attire votre attention aussi sur le fait que Rahab, elle a discerné ce qui se passait. Alors que tous les autres gens de la ville n'ont pas compris ce qui se passait, ce peuple-là qui avait traversé un océan à pied sec, alors que les eaux s'étaient miraculeusement ouvertes et ainsi de suite, les autres n'avaient pas compris. Ils voyaient le danger, mais ils ne comprenaient absolument pas. Elle a compris. Elle a eu foi en ce qui s'était passé. Dieu a noté l'attitude de cette femme-là. Et on sait par après qu'elle a été bénie. Je vais plus loin, puis dans la bénédiction, vous pourrez voir, la bénédiction qu'elle a eue, c'est que une des bénédictions qu'elle a eues, en plus d'avoir sa vie sauve et la vie de sa famille sauve, c'est que Rahab a épousé Salmon. Vous pourrez aller voir la généalogie dans Matthieu chapitre 1. On a toute la généalogie. Et elle a épousé Salmon et elle a enfanté Boaz, le mari de Ruth, ancêtre de David. Voyez-vous, elle a été intégrée à la famille israélite. C'est fantastique de voir comment ça s'est fait. Et c'est intéressant parce que Salmon, ça c'est une réflexion que M. Ogwin a faite, ce monsieur-là qu'elle a épousé, Salmon, qui était un Israélite, ça peut très bien avoir été un des deux espions qui a été dans la ville de Jéricho et qui ont connu cette dame-là. Peut-être que Salmon était le deuxième qui a été frappé par le caractère de cette dame-là, par son attitude, et que par la suite, il en a fait son épouse. Bon, maintenant, allons plus loin dans le récit. C'est une histoire fascinante. Quand on regarde tout ce qui s'est passé en détail, on pourrait en parler des heures et des heures, et ça nous enseigne plein de choses. L'événement qui a suivi, c'est que la nation, à ce moment-là, a miraculeusement traversé le Jourdain. Et là, il s'est passé quelque chose un peu comme lors de la traversée de la mer Rouge. C'est que Dieu a séparé les eaux pour que la nation d'Israël peuve passer à pied sec le Jourdain. Le même phénomène. Et ils ont suivi l'Arche d'Alliance, ils ont suivi les sacrificateurs, les Lévites. Dieu avait donné le plan de marche exactement. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Il dit exactement quoi faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit procéder. Et ils l'ont fait à ce moment-là exactement. Josué chapitre 3, lisons le verset 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est du côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. C'est là qu'ils ont traversé, vis-à-vis de la ville. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Encore un autre miracle extraordinaire qui rappelle encore à Josué et à toute la nation que c'est par la puissance de Dieu seulement qu'on peut arriver au but. Il n'y avait pas d'autre moyen. Allons plus loin. On va voir comment ça s'est déroulé. Josué 4 et le verset 17 à 19 maintenant. Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Ils venaient de traverser, ils étaient en sécurité. Il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fait aussi lorsque le Jourdain était à sec, mais je ne vous donne pas tous les détails. Vous pourrez lire vous-même, vous allez voir, il y a beaucoup de significations aussi là-dedans. Mais regardez ce qui arrive immédiatement après. Le peuple sortit du Jourdain, ce qui arrive après dans le verset suivant, qui nous dit un élément important. Le peuple sortit du Jourdain, quel jour? Le dixième jour du premier mois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le dixième jour du premier mois de l'année de Dieu, de l'année sacrée. Dixième jour du premier mois. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Le dixième jour du premier mois de l'année sacrée, ça a été la sortie du Jourdain pour entrer en terre promise. Quand vous allez voir, dans Exode 12, verset 3, c'est la journée où le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte, devait choisir l'agneau qui allait être offert en sacrifice 4 jours plus tard, le 14e jour du premier mois. OK? Donc, le 10e jour du premier mois du calendrier sacré de Dieu, ils sont sortis du Jourdain et ça coïncidait exactement avec le jour où Israël devait choisir l'agneau sans défaut qu'ils allaient offrir en sacrifice. Et c'est intéressant parce que je me rappelle un message de M. Gerald Weston où il avait mentionné ceci. Il dit, c'est possiblement à ce même dixième jour du premier mois que les chefs religieux et les pharisiens du temps de Christ ont décidé de passer à l'action pour éliminer le Christ, l'agneau de Dieu. Ça peut être ce même jour-là qu'eux ont décidé de passer à l'action. Tout se tient. Tout se tient. Dieu a un plan extraordinaire. Puis c'est tellement fascinant de voir sa majesté à travers ça, de voir sa puissance. Maintenant, je vais plus loin. On continue dans notre histoire, là. Histoire réelle qui est arrivée pour nous enseigner plein de belles choses. Quel événement a suivi après la sortie du Jourdain? Josué, chapitre 5. On va lire les versets 7 et 8. C'est la circoncision de la nouvelle génération. Parce que la nation d'Israël qui s'est présentée pour entrer en terre promise, c'était les enfants nés au désert. Tous leurs parents étaient morts durant les 40 années où Israël avait été châtié en les envoyant au désert parce qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel. Alors, c'est la nouvelle génération qui, elle, n'avait pas été circoncise. Regardez versets 7 et 8. « Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. » Bien sûr, c'était une circoncision physique. Nous, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est une circoncision spirituelle, circoncision du cœur, un changement de cœur. Okay? Mais eux, c'était une circoncision physique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Quand on se repent, quand on veut changer, quand on dit à Dieu, « Je veux t'appartenir, je regrette d'avoir causé la mort du Christ », nous, à notre époque, sur la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on peut prendre la Pâque, on se fait baptiser et on peut prendre la Pâque. On peut prendre la Pâque seulement lorsqu'on est baptisé. Et eux ont pris la Pâque après ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été physiquement circoncis. Ils ont pu prendre la Pâque physique à l'époque. Et c'était le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Donc, 4 jours après la sortie du Jourdain. Josué 5 et le verset 9 à 11 maintenant. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Donc, j'ai enlevé le prépuce, si vous voulez, la circoncision, d'enlever cette partie de chair. Il dit, « J'ai enlevé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, ce qui veut dire action de rouler ou d'enlever. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, là, ils ont célébré la Pâque. Oui, parce qu'ils étaient circoncis, ils pouvaient célébrer la Pâque. Le 14e jour du mois, donc 4 jours après être sorti du Jourdain, sur le soir, entre les deux soirs, dans la plaine de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, parce que c'était la fête des pains sans levain qui commençait, et du grain rôti. Et ils en mangèrent ce même jour. Fantastique! C'était le début, comme c'est le début pour nous de la vraie vie spirituelle, lorsqu'on se fait baptiser, qu'on reçoit l'imposition des mains, qu'on reçoit l'imposition du Saint-Esprit, qu'on peut prendre la Pâque, et ainsi de suite. C'est le début de notre vie éternelle, si on veut. C'est le signe de notre appartenance à Dieu. Comme eux, c'était le signe de l'appartenance à Dieu aussi. Puis là, arrive un événement extraordinaire, tout de suite après. Tout de suite après, là, ils ont pris la Pâque, ils ont été circoncis, ils ont pris la Pâque, et là, ils sont en face de Jéricho. Ils doivent aller prendre Jéricho. Mais ils ne peuvent pas humainement prendre cette cité forte. Comme nous, on ne peut pas humainement vaincre nos faiblesses. On a besoin de la force de Dieu. Et voici que Dieu, après, se manifeste directement à Josué pour l'encourager. Un événement extraordinaire se produit. Josué 5, versets 13 à 15. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. » Un événement extraordinaire. « Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou un ennemi? » Je comprends Josué, là. Il voit cet homme-là qui a une épée, connaît pas. Est-ce que c'est le chef d'une armée qui va venir nous détruire, nous attaquer? Il veut savoir à qui il a affaire. Et cet homme-là qui a une épée dans sa main répond, « Non, je ne suis pas ennemi, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur, à son serviteur? » Même chose que Paul a fait quand il est tombé en bas de sa monture. Il a dit au Christ, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'était le Christ qui était là, le Dieu de l'Ancien Testament. Il n'était pas encore le Christ. Il allait le devenir plus tard en venant dans la chair humaine. Mais c'était le Dieu de l'Ancien Testament. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué une chose. « Ôte tes souliers de tes pieds. » Pourquoi? « Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Pourquoi est-ce que le lieu était saint? Parce que le Christ était là. Parce que Dieu lui-même était sur place. Et Josué a obtempéré. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est celui qui allait devenir le Christ. Et ici, la scène qui se passe, c'est la même scène qui s'est passée, vous allez vous rappeler, vous irez voir dans Exode 3, verset 5 à 6. Exode 3, verset 5 à 6, la même scène, le même scénario qui s'était produit là, dans la scène du buisson ardent. Lorsque Moïse a vu un buisson ardent qui se consumait, sans se consumer, qui était en feu, mais sans se consumer, et c'était Dieu qui se manifestait, et Dieu a dit la même chose à Moïse à ce moment-là. Et vous allez voir dans ce passage-là, il dit vraiment, « Je suis l'Éternel, je suis Dieu. » Et il a dit à Moïse à ce moment-là, « Enlève tes souliers de tes pieds, enlève tes sandales de tes pieds, car la terre où tu te tiens est sainte. » Parce qu'il était là, parce que Dieu lui-même était là. Bon, revenons à notre histoire. On continue l'histoire, là. C'est fascinant. Ça, c'était juste avant la conquête de Jéricho. Parce que là, il fallait aller prendre la ville. Et tout était en place, là. Là, le Christ venait de montrer que c'est lui qui était en charge. Le Dieu de l'Ancien Testament, dans le fond, a dit à Josué, « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui suis en charge. Je t'ai mis en charge physiquement de la nation. Tu vas les amener à prendre la ville, mais c'est moi qui vais vous donner la victoire. » C'est la même chose que le Christ nous dit à nous. « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. » C'est comme si c'était fait. Et quand Paul dit, « Ce n'est plus moi qui vis. » C'est le Christ qui vit en moi. Qui est celui qui vit en nous? Une fois qu'on s'est repenti, qu'on a passé par les eaux du baptême, qu'on a été lavé de notre vie passée et qu'un ministre de Dieu nous a imposé les mains pour qu'on reçoive son Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui est en nous. Le chef de l'armée de l'Éternel. Josué savait, parce qu'il était proche de Dieu, que c'est Dieu qui combattait pour lui et qui allait combattre pour lui. Puis nous supplions Dieu de nous aider à faire sa volonté, pas la nôtre, de nous aider à faire sa volonté de plus en plus en toutes choses, plus nous avons cette assurance que Dieu combat pour nous et que Dieu combat en nous. Et c'est fascinant parce que plus on fait l'expérience, plus on en est convaincu. Et plus on a cette paix d'esprit, même s'il y a des circonstances bouleversantes autour, qu'on ne comprend pas toujours ou dont on ne voit pas l'issue. On peut avoir l'assurance que si je fais ma part, si je travaille à rester proche de Dieu, Dieu va faire en sorte que ça se termine bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc qui s'appliquent à vivre selon ses lois et qui sont appelés selon sa volonté. Vous irez voir dans Jean 16, verset 33, tellement encourageant. Jean 16, verset 33. Le Christ dit... « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » On peut avoir une grande paix au milieu de grandes souffrances, comme j'ai vu à plusieurs occasions, des gens proches de mourir, même qui sont décédés dans l'Église, qui avaient grande paix d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches de Dieu. Ils savaient exactement ce qui les attendait. Ils avaient servi Dieu au mieux, même s'ils n'avaient pas été parfaits, mais leur couronne les attendait. Comme Paul dit, « J'ai combattu le bon combat et ma couronne m'attend. » C'est exactement ça. Le Christ dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, et nous en avons, et nous en aurons davantage. Mais celles qui nous sont données de réussir à traverser avec l'aide de Dieu nous renforce pour être capable de traverser les autres qui viennent. C'est un processus qui se développe à mesure qu'on avance dans les événements et dans les difficultés et que Dieu nous donne de réussir des choses. On sait que ça ne vient pas de nous, mais parce que ça ne vient pas de nous et que Dieu est fidèle, on sait qu'il va encore nous aider dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances semblables ou dans des circonstances encore pires qui vont venir. Parce qu'on sait qu'au temps de la fin, ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant. Et il faudra déjà, chacun de nous, être solide sur nos deux pieds pour être capable de passer à travers. Ne crains pas, petit troupeau, car mon Père a jugé bon de vous donner le royaume. Et si on fait ça, comme la Bible dit, on sera jugé digne même d'échapper aux choses qui viennent, à la grande détresse et aux grandes tribulations qui s'en viennent. Parce que Dieu est fidèle pour prendre soin de ses vrais serviteurs, de ceux qui ont vraiment à cœur d'accomplir son œuvre, de faire sa volonté, puis de se purifier. On est appelé pour faire l'œuvre, pour annoncer ces choses-là au monde, pas pour changer le monde, mais pour servir de témoignage. Puis en même temps, nous autres, de nous préparer pour servir dans le monde à venir. Alors le Christ dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais regardez, même chose qu'il a dit à Josué, « Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Le même chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, « Prenez courage, vous me connaissez, j'ai vaincu le monde. Je le vaincrai encore pour vous. » Comprenez-vous pourquoi aujourd'hui c'est jour de victoire? Parce que ça représente quand ils ont pris Jéricho, mais ça représente en bout de ligne, d'ici quelques années, notre victoire totale aussi, si on persiste. Le même être puissant qui a donné la victoire à Josué va vous donner de vaincre, c'est lui qui va vous donner de vaincre, qui va lutter en vous, qui va lutter pour vous, qui va vous soutenir, qui va vous consoler si vous faites ce que vous avez à faire, si vous persévérez, quelles que soient les circonstances. On va de l'avant pour finir l'œuvre. C'est pour cette raison-là qu'on a été appelé. On n'a pas d'abord été appelé parce qu'on était des chouchous ou des préférés de Dieu. Non, parce que même à ça, c'est plus difficile pour ceux qui sont appelés maintenant de vivre différemment de ce monde-là, d'être montré du doigt, d'être considéré comme bizarre. Et je comprends qu'on soit bizarre aux yeux du monde. Et si nous n'avions pas été appelés et que nous voyions des gens de l'Église de Dieu, nous les trouverions aussi bizarres. Parce que quand la compréhension n'est pas donnée, elle n'est pas donnée. Et les gens ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas leur reprocher. Si on était là, on ferait la même chose. Voyez-vous? Mais on va de l'avant pour accomplir l'œuvre, pour terminer le travail, pour que Dieu, après le retour de Christ, appelle tout le reste de l'humanité. On va de l'avant. On soutient l'œuvre et en même temps, on se prépare, on se purifie. Comme Josué, après avoir reçu cette assurance-là, après avoir rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, et nous, quand nous avons été baptisés dans ce sens-là, nous l'avons rencontré intérieurement parce qu'il a mis son esprit en nous, après avoir rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, on réalise que ce n'est pas par nos forces humaines qu'on peut réussir, comme Josué a réalisé que ce n'était pas par ses forces humaines qu'il pouvait réussir à éliminer Jéricho, symbole du péché, symbole du mal. Allons dans Josué 6 maintenant, versets 1 à 5. Regardez ce qu'ils ont fait. Jéricho était fermé et barricadé, une ville forte là. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Et ça, c'est comme nos péchés. Ils sont barricadés, ils sont protégés. Il faut vraiment travailler pour les éliminer. Et on n'y arrive pas tout d'un coup. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, et là, l'Éternel va dire à Josué, « Voici le plan de match. Ce que vous allez faire. Vous autres, vous allez faire ces choses-là, et moi, je vais me charger de jeter la ville par terre, de jeter les murailles par terre, et vous allez pouvoir éliminer la ville. » L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » OK? Formidable. « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. » Et après, il dit, « Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Il y avait des choses bien précises à faire. C'est intéressant parce qu'on voit quand on lit l'ensemble qu'ils ont respecté à la lettre. Et chaque jour, quand ils faisaient le tour de la muraille, personne ne parlait. Personne ne parlait. Ça me fait penser quand on vient pour la Pâque, là. C'est solennel. Et on échange seulement les choses pour le besoin du service, mais il n'y a pas de fraternisation et tout ça. C'est un peu le même principe. Mais ils n'ont pas parlé. Ils faisaient simplement le tour de la ville et avec les trompettes retentissantes. Et j'imagine que pour les gens à l'intérieur, ils les trouvaient bizarres aussi. Ils les trouvaient bizarres aussi, mais ils étaient inquiets parce que c'était des choses complètement inconnues. Ce peuple-là avait comme passé à travers des épreuves incroyable. Et là, ils étaient là et ils faisaient ces choses inattendues qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce qui s'en venait après. Dieu seul pouvait leur donner la victoire aux Israélites. Je précise un petit peu pour qu'on voit le contexte. Dieu seul pouvait leur donner la victoire. En dedans, il y avait une armée féroce, des gens aguerris. Cette nouvelle génération-là qui était sortie du désert, ils n'avaient pas l'expérience que leurs parents avaient eue avant. Ils n'étaient pas aussi aguerris que les autres. Plus que ça, ils n'avaient jamais fait l'expérience de conquérir une ville forte. Ils n'avaient jamais fait l'expérience de conquérir une ville forte. C'était une ville emmurée avec une armée solide à l'intérieur. Et en plus de ça, il n'y avait pas l'équipement non plus qu'il fallait. Il n'y avait pas d'équipement. Il y avait des trompettes. Il y avait des trompettes et Dieu avait dit, parlez pas. Sauf que le dernier jour, là, quand vous allez faire 7 fois le tour, là, à la trompette, vous allez crier tous en même temps. OK? Il n'y avait aucun équipement comme pour bâtir des rampes pour atteindre la muraille. Il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas d'équipement pour creuser des tunnels, pour passer en dessous de la muraille. C'est une tactique militaire qu'on peut utiliser. Mais il n'y avait pas d'équipement de ça, là. Rien de ça. Il n'y avait pas d'équipement non plus pour percer la muraille. Absolument pas. Il n'y avait pas d'équipement non plus pour grimper par-dessus la muraille. Absolument pas. Rien. Toutefois, pour conquérir la ville, ils avaient des choses à faire. Aussi simple que ça. Pour conquérir, il y avait des choses à faire. Il y avait des directives à suivre comme nous, exactement comme nous. Vous irez voir dans Romains 12, verset 21, qu'est-ce qui nous est dit? Directive à nous, en résumé, pour notre cheminement spirituel vers le royaume, vers la vie éternelle. Ne te laisse pas vaincre par le mal. On a un combat à faire. Vous et moi, on a encore des travers à éliminer. On sait lesquels dans la plupart des cas. Dieu va peut-être nous en montrer d'autres qu'on n'a pas vus. Et on lui demande d'ailleurs de nous montrer les fautes qu'on n'a pas saisies à date. Et il nous répond. Et il nous aide. Alors, regardez ce qu'il dit ici. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal, comment? Par le bien. » En remplaçant le mal par le bien. Si quelqu'un était porté à médire des autres ou à commérer ou tout ça, ou à dire du mal des autres, la personne cesse de dire du mal des autres, elle surmonte le mal par le bien en disant du bien des autres. Si elle n'a rien de bien à dire de quelqu'un, elle ne dit rien, tout simplement. Avez-vous? C'est ça la différence. Ne te laisse pas vaincre par le mal et ne fais pas de compromis non plus pour faire plaisir à un ou à l'autre ou en pensant pouvoir te tirer d'affaire en faisant un compromis sur la loi de Dieu. Il ne faut pas faire de compromis. Si je ne fais pas de compromis, Dieu sera avec moi et Dieu va me donner la victoire. Si je fais des compromis, je ne suis pas tout à fait avec Dieu et Dieu n'est pas tout à fait avec moi. Et là, j'ai de la difficulté. Je ne vois pas l'heure d'avancer. C'est une clé importante. Le péché est comme une ville forte qui se barricade. Vous le savez, je le sais. Oh boy, je le sais par expérience. Le péché est une ville forte qui se barricade et il y a certaines fautes que ça nous prend du temps à vaincre. Je vous donne simplement quelques stratégies qui peuvent nous aider. C'est important de voir comment travailler pour vaincre le mal dans nos vies. Stratégie possible. Comme ils ont encerclé la ville de Jéricho, encercler nos fautes, nos faiblesses. C'est-à-dire les regarder comme faux, les examiner. Voir comment je pourrais les aborder pour vraiment réussir à l'éliminer. S'il faut que je n'aille plus à certains endroits, que je prenne la décision de ne plus aller à certains endroits qui m'amènent à pécher. Ou si je dois me dissocier de certaines personnes qui m'amènent à pécher, je fais le tour de cette faute-là qui est ma faiblesse. Si je ne peux pas faire autrement, à ce moment-là, je m'éloigne de cette personne-là. Parce que moi, je veux surmonter le mal par le bien et je ne veux plus m'exposer au mal. Voyez-vous la différence? Et comment on peut arriver à surmonter le mal par le bien? En encerclant nos péchés, en les examinant et en regardant comment je dois mettre en place des façons de faire pour ne plus répéter cette faute-là. Autre stratégie, puis c'est important qu'on le sache parce qu'on n'est pas parfait d'un coup, mais il faut persévérer une journée à la fois. Persévérer une journée à la fois. Si aujourd'hui je manque mon coup à certains égards, ce soir je demande pardon à Dieu quand je vais aller le prier avant de me coucher. Je demande de me laver de ces fautes-là puis de me donner la force pour ne plus répéter cette faute-là. Et ensuite je vais me coucher, l'esprit tranquille, et demain est un autre jour. Je continue le combat. Comme les Israélites ont continué le combat ensuite. Jusqu'à la victoire. Troisièmement, une autre stratégie, et c'est pas pour rien que Dieu met un gouvernement dans son Église. Dieu est un Dieu d'ordre. Suivre les dirigeants qui sont fidèles et que Dieu a mis en place. Les dirigeants qui sont fidèles, c'est ceux qui annoncent exactement la parole de Dieu. Ce n'est pas des êtres parfaits, mais ils font tout pour accomplir l'œuvre de Dieu, aider ceux que Dieu appelle et diriger le peuple dans la bonne direction. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour servir les autres, comme le Christ en a donné l'exemple. Il y a des moments aussi, mais ça, ça nous aide, il y a des moments aussi, comme eux autres ont fait le septième jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, où il faut, comment je dirais, intensifier nos efforts. Alors, s'il y a une faute que j'ai vraiment de la misère à éliminer, je peux intensifier mes efforts après l'avoir identifié. Je me rappelle, j'ai déjà fait des sièges de jeûne, jeûner régulièrement pour demander à Dieu de me donner la force d'éliminer tel péché, telle faute. Et Dieu répond. Et j'ai vu d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Un siège de jeûne, un siège de prière. Et c'est pour ça, parfois, il faut supplier Dieu. On ne réussit pas tout de suite. Il ne faut pas se décourager, mais il faut retourner devant le trône de miséricorde, comme c'est marqué, pour être pardonné et secouru. Dieu est prêt à nous pardonner quand on regrette d'avoir manqué notre coup. Et après, il est prêt à nous secourir. C'est lui qui nous console et qui nous aide. On reçoit l'aide de Dieu. Si vous avez, par exemple, réussi à cesser de fumer ou autre chose, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vous avez éprouvé une grande joie. Vous avez dit, « Hey, je l'ai eu! J'ai eu un adversaire, là! J'ai combattu avec l'aide de Dieu, je l'ai eu! Si j'ai eu pour ça, Dieu va me donner aussi la force par rapport à d'autres choses que j'ai à éliminer. » Et ça donne une grande assurance. Plus on a de petites victoires comme ça, plus on s'en va vers des victoires plus grandes. Allez dans Josué chapitre 6. On est là maintenant, Josué chapitre 6. On va voir ce qui s'est passé exactement. Parce que pour conquérir la ville, ils avaient des choses à faire, des directives à suivre. Et ils les ont suivies exactement. Lisons Josué 6, versets 11 à 16. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours, exactement comme l'Éternel avait dit de faire. Et regardez le verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme ça avait été demandé, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Ils ont mis ça en application exactement. Verset 20, allez voir un peu plus loin. « Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. » Ce n'était pas à la force de leurs bras. Ils ont fait exactement ce que Dieu avait dit. Et Dieu, de son côté, a fait exactement ce qu'il avait promis. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville, et ainsi de suite. Victoire totale. Victoire totale. 7e jour des pains sans levain, qui annonce justement la victoire totale. On doit faire notre part, personnellement. Honnêtement avec Dieu. Être honnête avec Dieu. Dieu sait tout de nous, en détail. Même les choses que nous ne connaissons pas de nous. Il faut être honnête envers Dieu et agir fidèlement. Jusqu'au bout, persévérer, tenir jour après jour. Si une journée, ça a été moins bien, on en parle à Dieu. Et le lendemain, c'est une autre journée. Et on compte sur lui encore pour cette journée nouvelle. On doit faire notre part honnêtement jusqu'au bout. Si nous sommes encore en train de nous purifier, le jour qui vient bientôt où le Christ va revenir, c'est alors que le Christ nous donnera la victoire totale, définitive, sur le péché. Et à partir de ce moment-là, on sera capable de ne plus jamais, jamais, jamais pécher. Et dans ce contexte-là, là, il nous donnera la vie éternelle, parce qu'il pourra compter sur des gens fidèles pour l'éternité, membres de sa famille divine. Il nous rendra parfaits à jamais. Parfait à jamais. Ça fait rêver. Capable de toujours prendre les bonnes décisions, dire les bonnes choses, agir bien, être heureux, parfaitement joyeux. Entre dans la joie de ton maître. C'est une joie indescriptible. On ne peut pas comprendre ce qui nous attend. On le sait en gros par les prophéties, mais tout ne nous est pas révélé. On a encore des belles surprises à découvrir lorsqu'on sera rendu là. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, Philippiens 1, verset 6, en parlant de Dieu, en parlant du Christ, « Celui qui a commencé en vous, dans ceux qu'il a appelés, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre de vous transformer, de vous montrer ses voies, de vous donner la force de vous purifier graduellement, celui qui a commencé en vous cette bonne et grande œuvre, qu'est-ce qu'il va faire le jour de Jésus-Christ, le jour où le Christ reviendra, si nous sommes encore en train, avec zèle, de nous purifier? Il dit, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il va accorder à ce moment-là la perfection totale, absolue, définitive à ceux qui seront encore en train de marcher vers la perfection. Mais ça nous sera donné parce qu'on ne peut pas l'acquérir soi-même. Et tout ce qu'on aura réussi, ça c'est intéressant aussi, tout ce qu'on aura réussi à faire en cours de route, à vaincre nos faiblesses, on ne pourra pas s'en vanter parce que ça nous aura, ça aussi, été donné par le chef de l'armée de l'Éternel et par notre Père Céleste. Fantastique. On sera redevable à lui de toute chose. De notre vie physique qu'on aura eue, qu'on a encore pour quelque temps en ce qui nous concerne, de notre purification d'avoir été lavé à cause du sacrifice si grand du Christ qui a donné sa vie dans des souffrances horribles pour que nous soyons lavés de nos fautes et même guéris de nos maladies. Et nous lui serons redevables de la vie éternelle qu'il nous aura donnée à ce moment-là et de la perfection qu'il nous aura donnée. Comprenez-vous que ça va être une famille joyeuse, que ça va être une famille heureuse, que ça va être une famille remplie de beaux projets que Dieu va nous révéler à ce moment-là, qu'il a en réserve pour nous, qu'il ne nous donne pas en détail pour l'instant. Mais c'est tellement encourageant quand on lit ce passage-là. Celui qui a commencé en vous, et il l'a commencé, si vous êtes à l'Église, c'est parce que vous croyez. Certains sont là depuis plusieurs années, d'autres viennent d'arriver à l'Église. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il vous a appelé, que vous croyez, qu'il a commencé une œuvre en vous. Et il veut la finir. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, le jour où le Christ reviendra. L'année où Israël est entré en terre promise, au septième jour des pains sans levain, les murs de Jéricho sont tombés. L'année où Israël est entré en terre promise, les murs de Jéricho sont tombés le septième jour des pains sans levain. Au début du septième millénaire qui approche, on approche du millénium dont la Bible parle, du premier mille ans du règne de Christ sur la terre. Au début du septième millénaire qui approche, le présent monde malheureux et méchant, comme Jéricho, va s'écrouler. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce que Dieu est en train de réaliser, de préparer la réalisation. À la septième trompette, cette Babylone moderne, symbolisée par Jéricho, va tomber complètement. Va tomber complètement. Vous pouvez aller voir dans Apocalypse 18, verset 2, c'est une prophétie qui est écrite et qui va se réaliser, comme toutes les autres prophéties qui ont été écrites et qui se sont réalisées, et les autres qui sont en train de se réaliser. Elle est tombée, Babylone la Grande, la société actuelle méchante dans son ensemble. Rappelez-vous, lors de la prise de Jéricho, le septième jour, lorsque la trompette a retenti, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites, selon le commandement qui avait été donné, ont poussé de grands cris, et qu'est-ce qui est arrivé? Par la puissance de Dieu, la muraille s'est effondrée. Intéressant, je vais plus loin. La prophétie nous montre que la même chose va se produire au moment du retour du Christ. La même chose va se produire quand le chef de l'armée de l'Éternel reviendra sur terre pour établir son gouvernement définitivement. Au son de la trompette, les serviteurs fidèles de Dieu crieront de tout leur cœur. C'est marqué dans les textes, c'est marqué dans la Bible. Allez dans Apocalypse 11, Apocalypse 11 et le verset 15. Apocalypse chapitre 11 et le verset 15. Regardez ce qui est écrit. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, à son oint, et il règnera au siècle des siècles. » Vous avez bien entendu. Qui sont ces gens qui vont crier à ce moment-là? Ce sera les serviteurs fidèles de Dieu qui seront avec le Christ, qui vont descendre pour établir son gouvernement sur la face de la terre. Fantastique. Tout se tient dans le plan de Dieu. C'est tellement impressionnant de voir sa précision, sa majesté, sa puissance. Tout ça va se réaliser à la lettre, comme ça a été annoncé. Aujourd'hui, c'est le septième jour des pains sans levain. Nous célébrons avec joie. Et comment? Et avec reconnaissance. Et comment aussi? Un jour annonciateur de victoire totale. D'ici là, on doit continuer le combat avec l'aide de Dieu. Soyons reconnaissants et allons de l'avant en suppliant le Christ de nous diriger, de combattre en nous et de combattre pour nous donner la victoire totale et délivrer l'humanité.